Merci beaucoup, Élie. Je passe tout de suite la parole à Valérie Peugeot, qui a eu la gentillesse de bien vouloir attendre. Mais voilà, c'était un peu dense. Je vais lui passer la parole tout de suite. Donc, elle est sur Paris et elle est... je vais la laisser se présenter directement toute seule. Ce sera encore plus précis. Voilà, et on perdra moins de temps. Vous nous entendez ?
Vous m'entendez, là ?
Oui, allez-y.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ?
Parfait,
oui,
c'est
okay.
Bon.
Je démarre ? Bon, super. D'accord. Ben, bonjour à tous. Ah, j'ai un écho assez terrible. Bon, je vais essayer de ne pas trop en tenir compte. Ben, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à participer et m'excuser de ne pas être là en présence avec vous, d'autant que le peu de vos échanges que j'ai pu entendre m'ont paru tout à fait passionnants. Donc voilà, je le regrette encore plus. Alors, je ne sais pas de combien de temps je dispose là. Si vous pouvez juste me dire un...
Alors,
je m'aligne un peu.
Si en j'imagine... 10 minutes, vous pouvez...
Oula.
Voilà, 10 minutes, ça, je sais que c'est très contraint, mais ce serait bien parce que ça permettra quand même d'avoir des questions. Sinon, voilà, on veut s'arrêter à 12h30. Bon, excusez-nous, okay. Hein, c'est vrai que
bon.
On avait prévu un peu plus, mais bon, merci.
Non, mais je vais m'adapter, c'est pour savoir quel point je vais choisir. Alors, déjà, très vite, qu'est-ce que c'est que le Conseil national du numérique, pour vous dire d'où je parle? Donc, c'est une instance... qui avait été créé par le précédent gouvernement pour le conseiller sur ses politiques en matière de numérique, qui a été complètement renouvelé par le gouvernement actuel et qui a une composition un peu particulière dans sa nouvelle mouture, puisque nous sommes 30 membres avec des profils très très différents, pas mal de chercheurs, des gens du monde associatif, des entrepreneurs du numérique, journalistes, éditeurs, voilà, donc une très grande variété. Et je tiens à le souligner, 50% d'hommes, 50% de femmes, 50% de moins de 40 ans, 50% de plus de 40 ans, voilà. Donc cette diversité, elle est très importante parce que elle nous donne un regard sur tous les sujets sur lesquels on travaille, très riche, très pluriel. Alors, comment on travaille très rapidement? On est saisi par le gouvernement sur un certain nombre de sujets, mais nous pouvons aussi nous auto-saisir quand nous considérons qu'il y a un sujet de l'actualité qui mérite notre intervention. Donc, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est Madame la ministre Fleur Pellerin qui nous a demandé il y a une petite année, au moment de notre nomination, de nous saisir de ces questions de fracture numérique, inclusion numérique, avec, je dirais, une saisine très liminaire. Hein. Il n'y avait pas d'indication et le souhait qui était exprimé derrière, c'était de les aider à reconstruire une vision stratégique sur ces questions d'inclusion à l'heure du numérique. Alors, on a travaillé pendant à peu près 6 mois et j'insiste sur la méthode. Ça a pris 6 mois parce qu'on a pris un temps très long, non pas pour mener des auditions au sens traditionnel où les acteurs viennent à un raconter ce qu'ils font, mais pour faire ce qu'on a appelé des journées contributives. On a invité des bouquets d'acteurs et tous ceux qui voulaient participer ont pu venir. Et on a travaillé avec des méthodologies contributives et créatives de manière à avoir vraiment un terreau dans lequel nous avons ardemment, je dirais, puisé pour produire notre rapport. Donc, je ne vais pas vous décrire tout le rapport, vous l'aurez compris, en maintenant 8 minutes qui doivent me rester, ça serait trop long. Il est évidemment disponible en ligne et puis on pourra échanger dans les questions. Ce qui est un peu... l'architecture de notre rapport, elle a été tirée par un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que on a identifié en remontant dans l'histoire de cette thématique inclusion numérique, fracture numérique, qui n'est pas très nouvelle, qui a été quand même le précédent orateur l'a largement rappelé. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille ces questions-là. Donc, on a identifié grosso modo 2 périodes historiques, petite histoire, mais une période qui court du milieu des années 90 au début des années 2000, où on parlait essentiellement de fracture numérique et les gens étaient très focalisés sur la question de l'équipement et de l'accès à Internet. Je fais très vite, de façon liminaire. Deuxième phase, on a bien compris que la question des compétences, de la formation était importante et on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour... c'est ce qui était cité tout à l'heure, avoir des compétences de base, mais très élémentaires, c'est-à-dire manipuler la souris, envoyer un email, aller sur le web, faire un achat en ligne, remplir un formulaire administratif. Et aujourd'hui, on rentre dans une troisième époque qui change radicalement par rapport à ces 2 époques précédentes. Elle change pourquoi? D'abord parce que le numérique est partout. Bon, je ne sais pas à vous que je vais l'expliquer, je pense que vous en avez abondamment discuté. Elle est dans notre vie professionnelle, notre vie personnelle, nos manières de socialiser, nos manières d'inventer, de créer, de nous relier, etc., etc. Bon, ça, c'est une évidence. Deuxième chose, elle change parce que les cibles, entre guillemets, c'est-à-dire les publics qu'on a besoin de toucher par rapport à cette question du numérique, sont devenus des cibles mouvantes. Avant, on disait de façon un peu grossière, on disait les personnes qui sont exclues du numérique, c'est les personnes qui ont des faibles revenus économiques, les pauvres, c'est les personnes qui ont un petit capital cognitif et des personnes âgées. Hein. Schématiquement, les études s'organisaient comme ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette maille ne correspond plus à la réalité et qu'il y a un mélange à l'intérieur de ces catégories. Et on trouve, par exemple, des personnes qui n'ont aucun problème, ni économique, ni de sociabilité, ni cognitif, etc., et qui vont pour autant être tétanisées face au numérique. Et à l'inverse, on a des personnes, par exemple, des jeunes en galère dans la rue, des jeunes à chiens, comme on les appelle de façon stigmatisante, qui sont complètement désocialisés, qui n'ont pas d'emploi, etc., mais qui pour autant ont un téléphone portable et pour qui le numérique n'est absolument pas un problème. Donc voilà, il y a une complexification des gens avec lesquels on veut travailler ou accompagner. Deuxième grand changement, en fait, avant, historiquement, on réfléchissait avec un dedans-dehors. Hein, toute la pensée fracture numérique, c'est il y a les gens qui sont exclus du numérique, on va les ramener dans le numérique. En fait, cette manière de réfléchir, pour nous, elle nous paraît complètement obsolète aujourd'hui, parce que l'innovation technologique ne cesse d'être là et que les compétences dont nous avons besoin pour être acteurs d'une société du numérique, elles évoluent en permanence. Donc, effectivement, dans les années 90, savoir manipuler la souris et aller sur un moteur de recherche, ça suffisait. Puis il a fallu, on est tous montés en compétences, hein, on a appris à se servir de réseaux sociaux, appris à se servir de Skype, etc., etc. Et aujourd'hui, on doit apprendre à gérer nos données personnelles, à se questionner sur les questions de vie privée. On doit apprendre à travailler en réseau. Demain, il faudra apprendre à interagir avec son médecin à travers un dispositif numérique où on devra apprendre se former dans l'enseignement supérieur à travers des MOOC, etc., etc. Donc, vous voyez, on est face à des compétences mouvantes et qui continueront d'évoluer au fur et à mesure que des technologies suivantes arriveront dans les usages. Donc, on ne peut pas continuer de réfléchir comme si c'était un problème transitoire et qu'il faille juste ramener les gens qui sont dehors, dedans. Ça, c'est un grand changement. Donc, et aussi, une chose qui a un peu construit notre rapport, c'est de sortir des discours un peu binaires qu'on entend depuis 95. Hein. On peut remonter au G7 de 95 ou au rapport Bangemann sur le numérique. On a deux discours, les discours techno-enthousiastes, le numérique, ça va tout permettre, ça va permettre aux gens de changer leur vie, de trouver de l'emploi, de résoudre des problèmes, etc. Et puis de l'autre, on a des discours très négatifs, le numérique, facteur d'exclusion, de désocialisation, etc. Donc nous, on a essayé de sortir de cette binarité et de montrer que, comme dit Bernard Stiegler, le numérique, c'est un pharmacon, hein, c'est-à-dire c'est le poison et le contrepoison en même temps, et il faut penser les deux en permanence de façon imbriquée. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les propositions qui sont dans le rapport, mais mettre l'accent sur celles qui peuvent vous intéresser le plus. Évidemment, vous en avez parlé à l'instant avec le précédent orateur, il y a cette question de la littératie. Alors, nous, pourquoi on a choisi ce terme? Et je vous avoue que ça a été un choix un peu difficile, parce qu'on se rend compte, là, j'étais très heureuse d'entendre que la personne de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme se réjouissait de ce choix, mais je peux vous dire que ce n'est pas toujours le cas. En face de nous, quand on parle avec des élus, avec des gens qui s'occupent de numérique dans les villes, etc., ils nous regardent avec des grands yeux. Pourquoi vous prenez ce mot compliqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc on a fait un choix qui était un peu difficile à assumer, on le sait et on le porte. Et pourquoi on a fait ce choix? Alors, pas seulement pour la raison invoquée, qui est que c'est, on va dire, une version positive et pas simplement une vision négative comme la lutte contre l'illettrisme, même si c'est un élément essentiel, mais surtout parce qu'on a voulu montrer que pour être un acteur de sa vie dans une société numérique, on a besoin d'un bouquet de compétences qui est très large et que ce bouquet de compétences, c'est évolutif. Donc, le terme de littératie et la manière dont l'OCDE l'a défini, hein, et la fin de la définition, je ne crois pas que le précédent orateur vous l'ait lu jusqu'au bout, mais c'est les compétences qui sont nécessaires à la fois dans sa vie personnelle, dans sa vie au travail, dans sa vie à la maison, pour continuer à progresser. J'essaye de retrouver la définition en même temps que je vous parle, mais je ne l'ai plus sous les yeux. Donc, vraiment l'idée d'être acteur de sa vie. Voilà, l'aptitude à comprendre, à utiliser le numérique dans la vie courante, à la maison, au travail, dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses compétences, ses capacités. Donc, on voit bien qu'on est en transverse. Et derrière le terme littératie, nous, on veut désigner un bouquet de compétences. Qu'est-ce que c'est que ces compétences? C'est évidemment les compétences élémentaires, instrumentales, être capable de manipuler des équipements, des interfaces. Je dirais que ça, c'est la couche basse, la couche élémentaire. Mais ce sont aussi des compétences créatives, des compétences productives, parce que justement, la magie du numérique, c'est que ça nous permet de ne plus être simplement des consommateurs d'informations, d'où l'importance de passer du terme information à numérique, hein. Le numérique, il contient ce potentiel de production et de créativité. Ça veut dire aussi, dans les compétences qu'on met sous la littératie, avoir un minimum de culture en matière de code. Alors, il ne s'agit absolument pas de faire de tout le monde des développeurs informatiques, ce n'est pas du tout ça l'idée, mais on pense que dans une société où le numérique se glisse dans chacun, dans notre quotidien, on a besoin d'être en capacité de dialoguer avec ceux dont c'est le métier de développer des plateformes, des services, etc. Sinon, on est maîtrisé par la technique au lieu de maîtriser la technique. Donc ça, c'est un débat très important qu'on a eu au sein du Conseil national du numérique sur l'introduction de l'informatique à l'école pour que demain, tout un chacun ait un minimum de connaissances en matière de code. Après, si on a eu des débats sur la méthode, comment le faire, c'est très compliqué, mais je n'ai pas le temps là de m'étendre. On pense aussi que ce sont... en plus de ces compétences créatives et productives, on pense que ce sont des compétences d'environnement, c'est-à-dire être capable de trouver l'information, de comprendre l'information, de l'analyser, être capable aussi d'avoir un minimum de compréhension sur l'environnement économique et sociétal lié au numérique. Hein, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui pensent qu'un service qui se dit gratuit est gratuit. Ils n'ont pas forcément une compréhension des autres formes de monétisation que sont l'économie de l'attention, le rôle de la publicité, etc. Être capable de comprendre ce que c'est que les libertés numériques, les libertés à l'heure numérique, par exemple. Voilà. Et puis, surtout, ce qui nous paraît aussi important dans le terme littératie numérique, c'est qu'on peut s'inspirer des méthodes propres au numérique pour apprendre à apprendre autrement. C'est-à-dire... apprendre à travailler en collaboratif, à travailler en pair à pair, à travailler sur un mode distribué, à travailler en fonctionnement par projet, etc. Voilà, donc je m'arrête là sur la discussion de la littératie, mais vous comprenez pour nous la richesse qu'on a voulu mettre derrière ce terme-là et pourquoi il nous semble indispensable. Alors après, vous allez me dire comment, donc là je ne peux encore pas vous lister toutes les pistes d'action qu'on a introduites dans le rapport. Évidemment, on a attaché une attention particulière à la formation des publics les plus fragiles, les plus précaires, mais dans notre conception, ce qui est important, c'est que cette question de littératie numérique, elle nous concerne tous. Voilà, encore une fois, il n'y a pas ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et notamment, ça en fait sourire certains, mais on pense qu'il y a un problème de littératie numérique chez nos dirigeants, nos élus, nos cadres administratifs dans les collectivités territoriales, nos ministères, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un problème qui concerne tout le monde. Et voilà, donc pour les publics, je dirais, les plus fragiles, et là, j'ai beaucoup aimé ce que disait le précédent orateur sur l'effort que fournit l'agence pour essayer de mettre en visibilité l'expérience réussie, de faire monter à l'échelle et tout. Ça, c'est un problème qu'on a identifié tout au long du rapport. Hein. Il y a des tas de choses passionnantes qui se passent dans les territoires, mais aujourd'hui, on manque des structures et des outils pour pouvoir les faire passer à l'échelle. Donc, on a identifié pas mal d'expériences, on en a cité certaines dans le rapport. Et puis, vous verrez, il y a des tas de contributions écrites qui sont dans l'annexe, qui sont passionnantes, qui racontent des tas d'initiatives passionnantes. Donc, on voit aujourd'hui des expériences qui convoquent le numérique, pas tant sur le volet « empêcher que le numérique exclue », mais plutôt sur le volet « numérique comme outil de reconquête ». Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le numérique comme outil de reconquête de l'estime de soi, comme outil de retour au travail, bien sûr, de recréer des liens avec des personnes perdues. Donc là, dans les expériences passionnantes, il y a par exemple le travail d'ATD Carmonde qui, à travers leurs universités populaires, forment par exemple la Skype pour renouer des liens avec des enfants dont on a été séparés, qu'on n'a pas vu depuis des années. On a tout un travail qui est fait avec les migrants à la Gaîté lyrique et avec les bibliothèques sans frontières. Bon, je n'ai pas le temps de vous présenter ces expériences, mais encore une fois, je vous invite à lire les contributions parce que c'est passionnant. Et évidemment, le maillon indispensable dans tout ça, c'est de former les travailleurs sociaux. Ce n'est pas à vous que je vais le dire, mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même un manque de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intégration systématique dans la formation des travailleurs sociaux de cette dimension numérique. Et donc, on voit des attitudes soit de crainte, de repli par rapport au numérique, soit tout simplement de ben, comment je fais, quoi, hein, c'est-à-dire le travailleur social qui s'occupe d'un enfant qui a été placé pour être protégé de sa famille dont il subissait des violences psychologiques. Et un jour, il le retrouve devant son écran d'ordinateur en train de dialoguer avec ses parents par Skype. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, aujourd'hui, personne ne lui dit comment il doit gérer cette situation. Et pourtant, c'est le numérique qui bouleverse son travail. Voilà un exemple très concret. Alors, il me reste combien de minutes? Je parie que j'ai déjà dépassé le temps. Mais...
Oui, on va dire ça, mais c'est passionnant ce que vous nous dites. Donc, ça, je pense que ça fait des références sur le public qui est là, parce que parmi les personnes qui sont là, il y a des gens du domaine culturel, mais aussi du travail social. Donc, forcément, ça questionne. Je sais pas, je vous laisse 3 minutes encore, et puis okay. on essaie de faire un échange quand même avec la salle.
D'accord. Donc, merci. Juste mais je vais faire très, très bref. Après, pour essayer, pas le tout de dire qu'il faut développer cette littératie numérique. Après, c'est comment on fait. Donc, évidemment, il y a tout le volet, formation des travailleurs sociaux, formation des enseignants. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Mais surtout, ce qui nous a paru très important, c'est de revaloriser le travail de médiation numérique. Enfin, de médiation pour. De médiation pour permettre à chacun d'être inclus dans une société où le numérique est partout. Hein. Parce que nous, on a renverser la définition de e-inclusion en disant que finalement, la question, ce n'était pas d'être inclus par le numérique ou inclus dans le numérique, mais c'était d'être inclus dans la société où le numérique est omniprésent. Ça, c'est vraiment ça, notre philosophie qui a guidé tout notre travail. Pour remettre la question de l'inclusion sociale au cœur et pas tant la question du numérique. Donc, sur la question des médiations, on s'est aperçu qu'on était dans une période un peu de décrue, c'est-à-dire qu'il y a eu au début des années 2000, au moment où il y avait la MAPI, la mise en place des EPN, des cyberbases, etc., il y a eu tout un mouvement, il y a eu une politique publique forte et publique au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, pour créer des lieux de l'accompagnement et de la médiation numérique. Et aujourd'hui, on est dans une phase de décrue, parce qu'il y a des tas de collectivités territoriales qui considèrent que bah, finalement, hein, tout le monde a un ordinateur chez soi, donc c'est plus très important, puisque justement, ils n'ont pas compris ni la profondeur de la mutation, ni la complexité des compétences à acquérir. Et donc, il y a une diminution des crédits sur un contexte budgétaire que je ne vous retrace pas. Et puis, surtout, ça devient un peu le parent pauvre quoi, des politiques publiques. Donc, nous, on pense qu'il faut remettre en place de la médiation, mais il faut la penser différemment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de multiplier les EPN. Les EPN, il faut les aider à muter, à muer dans leur métier. Ils le font déjà pour certains, mais d'autres se sentent perdus parce que par rapport au type de formation qu'ils avaient mis en place, eh ben, ils n'arrivent pas forcément à évoluer. Donc, celle-là, il faut, c'est EPN, enfin, je dis EPN, cyberbase, ECM, peu importe comment on les appelle. Il faut les aider à aller vers un nouveau métier. Et puis, on a besoin aussi que des tas de lieux qui accueillent du public, mais dont le cœur de métier n'a rien à voir avec le numérique, aient aussi une dimension médiation numérique. Et ça, c'est particulièrement vrai. J'entendais tout à l'heure vaguement que vous parliez de Pôle emploi, etc. Nous, on pense que tous les lieux d'administration, pardon, qui ont tendance à aller vers une dématérialisation massive, doivent garder une médiation numérique pour accueillir les publics. Et une médiation qui peut être mutualisée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui soit à l'accueil de Pôle emploi, mais qui en même temps aide un migrant à demander sa carte de séjour sur le site de la préfecture ou à remplir un formulaire pour la CAF. On n'a pas besoin, on peut sortir des silos et avoir de la médiation mutualisée. Et y compris, pas seulement entre services publics. Hein, voilà. Mais ça ne se réserve pas aux services publics. Ça peut être une maison de quartier, une maison d'association, une maison de retraite, peu importe, qui intègre aussi dans son travail d'accompagnement et de médiation une dimension numérique. Voilà. Et c'est que si on multiplie ces lieux où le numérique rentre de façon transverse, qu'on arrivera à accompagner globalement une population. Je ne parle pas du rôle de l'école qui est tout à fait fondamental, mais en dehors du rôle de l'école. Et puis la dernière chose, le dernier point, encore une fois, je vous fais ça de façon très très expéditive, mais on a beaucoup insisté sur, enfin, un des volets de notre rapport, c'est sur le pouvoir d'agir, ce qu'on appelait le pouvoir d'agir, hein, qui est notre traduction de empowerment ou de agency. Hein, certains, il y a des débats sur les sémantiques dans lesquels je ne rentrerai pas. Mais on a repris ce terme de pouvoir d'agir qui nous paraît très fort parce qu'il garde le pouvoir au cœur. Hein, et c'est vraiment une question de pouvoir. On pense que le numérique est un formidable vecteur pour permettre aux gens d'être des acteurs, pas seulement de leur transformation personnelle, mais aussi d'être des acteurs d'une transformation collective. Que ce soit au sein de collectifs, d'associations, d'acteurs de l'innovation sociale en général, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie collaborative, peu importe, mais aussi comme citoyens à part entière dans leur territoire, dans leur ville, dans leur région, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est encore au tout début, mais le numérique est porteur d'abord d'un potentiel d'expression. Hein, on sort d'un système où les médias confisquaient la parole, ça, c'est pas très nouveau. Et on a besoin d'accompagner ça pour que les gens deviennent des producteurs d'expression publique. Par exemple, une ville comme Brest finance une association qui aide les gens à écrire sur des wikis, de manière à pouvoir coproduire des contenus sur leur ville, par exemple. Il y a le wiki du pays de Brest qui est coproduit par les habitants. On a besoin aussi d'accompagner les gens. Par exemple, vous avez des sites comme Patients Like Me, dans lesquels les gens partagent des savoirs sur leur pathologie, sur leurs soins, sur leur rapport au médecin, etc. Bon, voilà, tous ces outils, on pourrait parler de Wikipédia, bien sûr, mais on pourrait aussi parler d'OpenStreetMap, qui est une cartographie contributive. On pourrait parler d'outils comme FixMyStreet, qui est développé en Angleterre, dans lequel les gens participent de la signalisation de problèmes dans l'espace public. Encore une fois, je n'ai pas le temps de détailler. Mais on voit bien qu'il y a toute une série d'outils qui permettent aux gens de ne pas être de simples consommateurs de numérique ou d'information, mais aussi des producteurs et des parties prenantes de la vie collective et de l'innovation sociale. Et ça, je pense que c'est un axe tout aussi important que les axes, on va dire, plus réparateurs par rapport au numérique. Je m'arrête là, je préfère que vous me posiez des questions si on a encore 2-3 minutes plutôt que de trop parler.
Très bien, alors je vous remercie et je remercie, j'ai pas eu le temps de le faire, Elie Marron juste avant. Donc voilà deux points de vue, de lieux de réflexion et d'accompagnement aussi des pratiques. Je pense que c'est l'un et l'autre, vous avez vous éclairé à la fois des questions qu'on s'est posées au préalable, hein, sur où, comment, voilà, on commence à avoir aussi des pistes de réponse ou en tout cas de réflexion qui peuvent être autres. Parce que c'est ça, enfin, moi, ce que m'enseigne un peu le travail avec ou sur et pour et par le numérique, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de resituer sa place, ou en tout cas, ça nous permet de la poser autrement et de voir comment tout ça peut être transversal. Donc, je vais renvoyer, oui, la parole à la salle. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez une manifestation ou d'intérêt ou de critique ou comment vous voulez témoigner au vu de ce qu'ont dit nos deux intervenants précédents? Oui, Christophe.
Bonjour madame, tout d'abord merci d'avoir abordé la question de la médiation en quasi face à face et en direct, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur un sujet non le moindre, qui est la santé dans notre pays. Plus de 60% des Français déclarent d'abord chercher l'information sur le web avant même de questionner un professionnel de santé ou un médecin, et d'autant plus chez les personnes en situation d'illettrisme ou de grande précarité. Ce qui nous alerte, c'est de se poser la question comment organiser cette médiation numérique, puisqu'aujourd'hui, les usagers questionnent, alors on le voit chez les adolescentes par exemple, c'est un sujet qu'on a beaucoup questionné en phase de puberté, ou alors chez les femmes en situation de grossesse, qui privilégie le questionnement avec des pairs sur des réseaux sociaux d'échange, etc., parfois au questionnement plus traditionnel médical. L'ordre aujourd'hui dit qu'il ne sait pas vraiment comment se positionner sur ce nouvel espace numérique. Est-ce que le Conseil national travaille sur ce sujet, littératie en santé, littératie numérique, comment organiser cette médiation pour ces populations-là? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un sujet que vous allez travailler dans les mois, dans les années à venir?
Vous tombez vraiment à pic. En fait, on a été saisi pas plus tard que la semaine dernière par le gouvernement de ce sujet. Dans un premier temps, le gouvernement, par le ministère de la Santé, nous a demandé, enfin, il se posait plutôt la question des nouveaux supports d'une pédagogie de prévention, d'un travail sur la prévention santé en utilisant des nouveaux supports. Et donc, nous, dans les échanges préparatoires avec le ministère, on leur a dit oui, bon, ça, c'est un sujet à part entière, mais il y a effectivement toute une réflexion à mener autour de du point que vous venez de soulever. On ne peut plus être dans une simple attitude défensive ou à pleurer sur un passé de la relation médecin-patient qui se faisait dans une forme d'exclusivité. Aujourd'hui, de fait, voilà, la médecine, elle se passe aussi ailleurs et dans le cyberespace. Et donc, c'est un sujet que nous allons prendre à bras-le-corps dans les mois qui viennent, avec, je pense que nous espérons remettre un rapport sur ce sujet à l'automne, de mémoire. Mais comme on a 10 rapports en parallèle, je suis un petit peu perdue, mais c'est, voilà, on plonge là-dessus, et c'est surtout, si vous voulez participer à nos travaux, vous êtes bienvenue. Comme tous nos saisines, on a un temps de consultation, de contribution écrite, en présentiel, etc. Et donc, on serait ravis de vous entendre.
C'est réciproque. J'aimerais bien y participer, effectivement, parce que c'est vrai qu'on est nombreux à se poser cette question depuis des années. Merci.
Ben, je vous m'enverrai un mail.
D'autres questions ou... Bon, on a déjà débordé de l'heure, hein, on devait s'arrêter à 12h30, donc je peux comprendre aussi que ce soit un peu complexe. Peut-être Jean, oui, notre intervenant de la première partie.
Oui, juste une réaction, hein, pour vous remercier de votre intervention en temps très court, pour montrer effectivement la profondeur de la mutation, hein, que vous avez parfaitement illustrée, et en même temps la profondeur des besoins des nouveaux publics. Et j'ai bien aimé dans votre intervention sur le fait d'appartenir à la société dans laquelle le numérique est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'arranger pour que les gens soient actifs dans le numérique. Non, il faut qu'ils soient actifs au sein de notre société pour qu'on ait non pas des réseaux sociaux numériques, mais d'abord des réseaux sociaux humains. Et donc, j'ai bien aimé votre intervention sur cette dimension où le gouvernement, les acteurs publics, etc., visent à ce que le numérique enrichisse les relations de personne à personne, et que pour cela, il faut effectivement maîtriser différents niveaux pour que le numérique soit un outil, qu'on ne soit pas enfermé dans l'outil. Voilà, c'est une simple réaction.
D'autres éléments? Bon, je crois qu'on va peut-être conclure, puisqu'on a... dépassé. Merci. Alors, merci à vous, Valérie Peugeot, d'avoir trouvé du temps pour intervenir. Merci à Ali Maroun d'avoir fait le trajet malgré la neige pour venir aussi jusque-là. Merci bien sûr à tous les participants d'avoir affronté, puisque voilà, Valérie, je peux vous dire qu'en Auvergne, il y avait de la neige ce matin et que du coup, les relations ont été plus compliquées. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on a eu du retard aussi. Donc, on vous remercie d'avoir patienté l'un et l'autre. On espère se retrouver très vite autour de ces questions-là. Et on vous tiendra, si vous en êtes d'accord l'un et l'autre, au courant de l'évolution de nos réflexions, de nos réunions en barcamp, de nos animations diverses autour de ces questions qui nous, à la fois qui nous tiennent à cœur, mais qui surtout nous permettent d'engager des travaux différemment, d'engager des accompagnements différents auprès et des publics et des professionnels qui les accompagnent, en étant bousculés dans nos pratiques et en même temps en y trouvant à la fois grand intérêt et aussi une espèce d'apprenance un peu communicative, collaborative et qui se poursuit dans le temps. Voilà. Donc merci à chacun d'entre vous pour vos participations. À une très prochaine fois. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir. Au revoir.